Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
C'est un truc, Bouffon, à manger par terre. Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir, la bouffe ?
Le sucre, c'est l'ennemi. Un peu comme le gras ou le sel, on sait pas trop quoi en faire, s'il faut arrêter ou pas, s'il faut réduire ou pas. On a tous une connaissance qui a décidé de se couper du sucre. Et nous, alors, on sait pas vraiment quoi faire. Beaucoup de choses sont dites à son sujet et on a voulu nous aussi en savoir plus. Et c'est pour ça qu'on a demandé à deux personnes qui, à leur manière, savent en parler, de venir nous voir. En deuxième partie, c'est Alix Bornon de la pâtisserie Les Belles Envies, par exemple, qui est venue au micro de Bouffon. Diabétique, elle a monté une pâtisserie sans sucre. Et je suis sûr que là, vous êtes hyper intrigués de comprendre comment et pourquoi c'est possible.
Donc j'ai fait une école de pâtisserie. J'ai compris les rouages de la pâtisserie. J'ai compris à quel point il y avait du sucre. Parce qu'en fait, vous faites les préparations et puis vous goûtez. Toute la journée, vous goûtez. Et là, je me piquais 12 fois par jour, alors qu'aujourd'hui, je me pique 6 fois.
Mais d'abord, on va parler d'histoire pour essayer de comprendre comment et pourquoi le sucre est devenu aussi important dans nos vies. Quand est-ce qu'on s'y est mis? Et peut-être voir si c'est pas finalement des gens qui ont voulu qu'on s'y mette. Alors c'est peut-être un peu compliqué comme ça, mais vous allez comprendre avec l'interview. Et d'ailleurs, c'est Julia Xergo que j'ai interviewée, professeure, chercheuse à l'Université de Lyon 2 en histoire culturelle contemporaine.
Il a toujours incarné à la fois le désir et l'interdit, en réalité. Et donc, il y a énormément de choses qui se jouent autour du sucre, entre l'appétence qui est naturelle qu'on développe pour le sucre, puisque c'est un des goûts. Enfin, les recherches, notamment de Matti Kiva dans les années 70, avaient montré qu'il y avait un goût inné pour le sucre, hein, des nourrissons. Et en même temps, les excès auxquels ça peut nous mener et les problèmes de santé que ça peut, sur lesquels ça peut déboucher. Voilà.
Est-ce qu'on peut définir un petit peu de quoi on parle quand on parle de sucre? Je sais qu'il apparaît dans l'Antiquité. Enfin, on commence à le voir apparaître, oui. C'est une denrée rare qui apparaît dans l'Antiquité.
Oui, alors là, moi, j'ai travaillé vraiment sur le saccharose, en fait, parce que, évidemment, dans l'histoire, on utilisait aussi du miel, enfin, toutes sortes d'autres choses. Mais le saccharose, déjà, on le retrouve dans l'Antiquité à travers la canne à sucre, qui était donc cultivée du côté de l'Inde. Et en fait, comme beaucoup de plantes, tout ça a voyagé, a circulé. Mais pendant très longtemps, on n'avait pas une énorme production et ça restait un produit réservé aux gens, aux élites plutôt, hein, parce que c'était un produit qui coûtait assez cher. Mais ensuite, on a eu au 19e siècle une énorme révolution qui est intervenue en Occident et qui est la découverte en fait du saccharose qui était contenu dans la betterave à sucre. Et donc à ce moment-là, on a eu une production qui s'est considérablement développée et du coup, les usages et les consommations de sucre se sont beaucoup développés à partir du 19e siècle. Mais néanmoins, déjà dans l'Antiquité et déjà au Moyen-Âge, il y avait toujours cette querelle des saccharophiles et des saccharophobes.
C'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il apparaît dans l'Antiquité. D'ailleurs, vous trouvez une citation de Pline, un écrivain de l'Antiquité, qui décrit le sucre comme ça en disant « C'est un sel indien semblable au sel ordinaire, comme forme et comme couleur, mais au goût de miel. » Ce que je trouve assez beau. Oui. Et nous, le sucre, on le voit vraiment arriver en Occident, vraiment au moment du Moyen-Âge, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, il arrive avant, puisque dans l'Antiquité grecque et romaine, on en trouve. Mais il est très peu utilisé, oui.
Et c'est ce que je trouve drôle, c'est que au début on sait pas trop quoi en faire du sucre, on sait pas trop comment l'utiliser, si c'est un aliment, si c'est quelque chose de plutôt médicinal, et on va chercher un peu comme ça pendant tout le Moyen-Âge, mais après...
Bah oui, parce que en fait, le sucre c'est bon, et puis on aime ça, et puis on peut en faire pas mal de choses en réalité, hein, dans plusieurs aliments, et puis ça conserve aussi, tout comme le miel par ailleurs, et donc au moment où on a une croissance de la production de sucre, et du coup de sa potentielle consommation, comme il y a toujours cette querelle entre ceux qui disent que le sucre est un bon aliment, déjà dans la médecine hippocratique, on nous disait que le sucre était un bon aliment, qui était bon pour les voies respiratoires, la digestion, etc. Alors que d'autres disaient que c'était un aliment damné. Enfin bon. Et donc, on se pose la question, une fois qu'au 18e se développe en fait ce qu'on va appeler aujourd'hui la nutrition, mais qui était à l'époque la science alimentaire, eh bien, on se pose la question de savoir, au fond, qu'est-ce que c'est que le sucre ? Hein, est-ce que c'est un aliment ou est-ce que c'est un condiment ? Donc si c'est un aliment, ça veut dire que c'est quelque chose qui nourrit. Hein, et si c'est un condiment, ça veut dire juste que c'est quelque chose qui apporte un goût, une sapidité, une texture, enfin, etc. Et là encore, il y a énormément de débats parmi les chercheurs de l'époque. Et l'idée générale, après maintes expériences faites sur des animaux que je vous passe, c'est que finalement, le sucre est un aliment. Pourquoi ? Parce que on le désigne même comme aliment idéal, parce que c'est celui qui, sous la forme la plus condensée, contient le plus de potentiel énergétique. Donc c'est cette capacité du sucre à fournir de l'énergie qui le fait définir comme un aliment, puisque ce qu'on recherchait, notamment au 19e siècle, dans tout ce qu'on a mis au point autour de la ration alimentaire, etc., c'était justement de donner au corps humain, qui était considéré comme le corps du travailleur, hein, quand même, hein, le corps humain, il doit être productif, de lui donner des aliments qui reviennent le moins cher possible et qui, en quantité la plus faible possible, puisse donner le maximum de productivité, de rentabilité. En fait, c'est une conception tout à fait capitaliste du corps humain.
C'est qu'en fait, on voyait le côté sucre rapide du sucre, en fait, qui donne de l'énergie tout de suite, qu'on va pouvoir utiliser.
C'est ça.
Donc, on utilise comment le sucre ? Parce que j'ai l'impression que les desserts et les pâtisseries arrivent quand même assez tard dans l'histoire, et avant, entre le Moyen-Âge et le 18e, qu'est-ce qu'on en fait du sucre ?
Non.
On fait déjà des...
On a déjà... Ce qu'on appelait les pâtisseries, c'était pas les, enfin au Moyen-Âge, c'est pas du tout ce qu'on appelle les pâtisseries de nos jours. Donc tout ça, ça a mis du temps, hein, dans l'histoire de la pâtisserie, l'histoire de la cuisine, pour développer les pâtes diverses, les crèmes, enfin etc. Donc plus on va avoir une disponibilité en sucre, en réalité, plus vont pouvoir se développer des produits de la cuisine ou de la pâtisserie qui vont utiliser le sucre, voire même la confiserie. La confiserie, elle existait au Moyen-Âge sous forme de dragées enrobées de sucre, enfin d'épices en particulier enrobées de sucre, etc., un peu comme ce qu'on trouve encore aujourd'hui en Inde. Mais ce qu'on va appeler aujourd'hui la confiserie, nos bonbons, hein, les bonbons que nous connaissons aujourd'hui, ça va exploser véritablement au 19e siècle avec le sucre de betterave. Là, il va y avoir énormément de brevets, de confiseurs qui vont être déposés, et ça va vraiment devenir une branche très importante de l'industrie.
Le sucre de betterave, il arrive quand, à peu près ?
Il arrive au milieu du 19e siècle.
Hein. Et avant, on faisait du sucre avec de la canne
avant,
à sucre.
On avait la canne à sucre, essentiellement, oui.
Et j'ai l'impression qu'une partie aussi du moment où on commence à s'inquiéter un peu sur le sucre, et où on commence un peu à avoir cette partie un peu relation difficile, c'est quand on commence à chercher pourquoi les gens prennent du poids et pourquoi il y a des problèmes de surpoids.
Les études qui étaient faites au 19e montraient que, là encore, c'était très controversé. Mais j'allais presque dire, c'est comme aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, lorsque au 19e siècle, vous avez des médecins, des physiologistes, etc., qui disent non, le sucre, c'est pas un aliment obésogène. D'autres disent, ah oui, mais eux, ils disent ça parce que eux, en fait, ils sont vendus à l'industrie du sucre.
Hein, bon. Et des gens disaient déjà ça à l'époque?
Oui, bien sûr, ils disaient déjà ça à l'époque. Parce que, il faut savoir que la production avait vraiment considérablement augmenté. Hein, entre les années 1790 et 1890, on passe d'une consommation, en fait, annuelle per capita de moins d'un kilo à 12 kilos. Hein, donc c'est énorme. Et encore en France, on était très en retard, parce que c'était les Anglais qui consommaient le plus de sucre. Bon, ils avaient déjà une tradition du sucre par les colonies, et donc qui cultivaient la betterave à sucre. Mais tout l'enjeu, ça a été, et c'est pour ça que cette querelle a continué, parce que vous avez toute une catégorie de médecins et de physiologistes qui ont dit, il faut maintenant éduquer le peuple à manger du sucre. Parce que les gens pauvres, comme longtemps le sucre était un produit de luxe, et riche, les gens pauvres n'avaient pas l'habitude.
Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que les gens pauvres n'avaient non seulement pas l'habitude, ils ne voyaient pas l'intérêt vraiment, ils voyaient ça comme un truc de riche.
Pour eux, c'était les friandises, c'était du superflu. Je veux dire, lorsque les gens ont besoin de manger des choses pour se nourrir, pour survivre, ça leur paraissait être vraiment...
Un peu absurde.
Un peu absurde, un peu des trucs, des caprices de riches. riche. Et il y a eu toute une éducation qui a été faite auprès des classes populaires pour leur apprendre à manger du sucre.
Ça, c'était en partie parce qu'il fallait écouler l'énorme stock de sucre qu'on produisait.
La production. C'est la production. Donc, vous avez déjà des médecins à l'époque, donc on est dans les années 1880, quelque chose comme ça, qui disent « Ah mais oui, mais si on apprend au peuple à manger du sucre, il faut savoir qu'on incriminait les femmes à l'époque, dans les années 1880, de mal manger, c'est-à-dire de manger trop de légumes, de fruits et de salades. Hein, parce qu'on estimait que c'était pas nourrissant et qu'il fallait mieux remplacer ça par le sucre, qui lui donnait de l'énergie. Les autres, c'était des aliments pauvres et c'était pas avec ça qu'elles allaient avoir l'énergie nécessaire pour le travail. Donc, finalement, des médecins dénoncent en disant, ben voilà, c'est la grande entreprise de l'industrie sucrière qui est en train de corrompre des médecins pour que le goût du sucre. Et après, alors après, ça pose toute la question. Donc, est-ce que quand on commence, est-ce qu'il y a une addiction? Voilà, c'est ça la question. En tout cas, le goût du sucre se propage et que du coup, l'industrie puisse écouler sa production.
Et concrètement, c'est quoi quand on dit aux femmes ou à d'autres, vous devez manger plus de sucre, sous quelle forme en fait à cette époque-là?
Ah ben, il y a eu toute une éducation. Il y avait une éducation dans les écoles, dans les cours pour adultes. Enfin, il y avait plein de choses hein, où on éduquait parce que. On n'imagine pas aujourd'hui toute l'éducation populaire à la cuisine qu'il pouvait y avoir à la fin du 19e siècle. Parce que aujourd'hui, les gens vous disent « Ah, mais avant que les femmes travaillent, elles cuisinaient. » Les femmes cuisinaient absolument pas avant de travailler. Donc, c'est encore une vue de l'esprit. Et donc, au contraire, avec cette espèce d'esprit bourgeois qui se met en place au 19e siècle, avec la moralisation des classes ouvrières, enfin, donc, on apprend aux femmes à cuisiner. Et pourquoi on leur apprend à cuisiner ? Pour que on développe le foyer, l'esprit du foyer, que le mari n'aille pas s'enivrer dans les cabarets, qu'on retienne le foyer. C'est toute cette espèce de construction du foyer victorien qui se fait au 19e. Et donc, on apprend aux ouvrières, aux petites employées, etc., mais aussi aux bourgeoises, de cuisiner. Les bourgeoises, pas tant parce qu'elles cuisinent elles-mêmes, mais pour être capables de gouverner leur domesticité, leur cuisinière, etc. Donc, il y a cette grande entreprise, et c'est par là qu'on va apprendre des recettes de pâtisserie, du sucre, les confitures, enfin, toutes sortes de choses, oui.
D'ailleurs, c'est assez marrant. Alors, c'est une parenthèse qui n'est pas vraiment sur le sucre, mais du coup, il y a aussi, du coup, avec l'arrivée du sucre dans les classes populaires, il y a forcément un surpoids qui arrive. Et là où avant, c'était un signe de bonne santé quand ça appartenait à la bourgeoisie, quand l'embonpoint passe aux classes populaires, il devient en fait signe de fainéantise, de laisser-aller. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve.
Oui, alors ça, évidemment, hein, ça relève de tout ce qu'on appelle les stratégies de distinction hein, que Bourdieu avait évidemment travaillé. Pendant très longtemps, jusqu'au milieu du 19e, jusqu'à la même fin du 19e, être gros, c'était un signe de richesse. Enfin, on disait le gros bourgeois, le gros capitaliste, le gros patron, enfin bon. Et ensuite, une fois, mais pas que le sucre, parce qu'en fait, au 19e, il y a eu une révolution énorme, à la fois des transports, de la production, de l'agriculture, enfin, toute la productivité alimentaire a explosé véritablement, ce qui fait qu'il y a eu une véritable transition alimentaire, et les gens, même pas riches, ont pu profiter de plus de tout. Ils ont mangé plus de sucre, mais plus de viande, plus de céréales, enfin plus de tout. Et donc, évidemment, on le sait, hein, aujourd'hui, on voit dans les pays les plus pauvres, dès qu'il y a abondance de nourriture sur le marché, eh ben, on a tendance à se précipiter dessus parce qu'on a manqué, parce qu'on a peur de manquer, donc on prend ce qu'on a sur le moment où on peut. Et donc là, ça favorise en effet l'obésité, le surpoids. Et donc, une fois que les classes populaires ont eu accès à cette espèce de corpulence qui signalait auparavant la richesse, et ben c'est devenu quelque chose d'un peu vulgaire, d'un peu populaire, etc. Et les élites, du coup, ont cultivé l'image de la minceur comme étant l'image de la distinction.
Une espèce d'idéal.
Oui, oui.
On est au début du XXe siècle et on adore le sucre pour différentes raisons, vous venez d'en parler, mais c'est vrai que même, un truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on en donnait aux soldats, par exemple, pendant la guerre, parce qu'on estimait que c'était quelque chose qui allait leur faire du bien.
Mais oui, parce que les Français, notamment, se reportaient beaucoup dans les années après la défaite qu'on a eue contre la Prusse dans les années 70. Ils se référaient beaucoup à l'armée allemande. Comment le soldat allemand pouvait être plus fort que le soldat français. Et donc, notamment, il y a eu des études sur la consommation de sucre. Ils ont été rendus compte que les soldats recevaient 60 grammes de sucre par jour, ce qui les rendait extrêmement performants. Et donc, du coup, là encore, les Français se sont inspirés de ça pour avoir des soldats performants à leur tour.
Et après les deux guerres, il y a la grosse vague d'industrialisation de l'industrie agroalimentaire. Oui. Donc, le sucre aussi, forcément, passe par là.
Oui, parce que ce qui est terrible aujourd'hui, et on le sait, c'est que en fait la consommation du sucre, je dirais à la maison du sucre pur en tant que tel, a considérablement en réalité diminué, parce que on sait que même si les Français aiment le sucre, je crois qu'ils sont 54% d'entre eux à dire qu'ils font attention à leur consommation de sucre, mais on trouve du sucre dans tout ce qu'on nous propose à l'extérieur de la maison. Donc les plats préparés, les céréales du matin, les yaourts, allez trouver aujourd'hui un yaourt où il n'y a pas de sucre, c'est quand même assez étonnant. Enfin, donc tous les produits aujourd'hui ont des sucres rajoutés. Et du coup, la consommation de sucre devient très insidieuse et on est en surconsommation, mais qui vient de la production de l'industrie alimentaire. Pourquoi ? Eh bien, on en revient à la question de départ. Et bien parce qu'on aime le goût du sucre, tout simplement. On aime ça, donc ça va nous faire consommer encore plus. Et voilà.
Oui, parce que tous les industriels, dès qu'ils font des tests produits, tests clients, ils se rendent compte que, quel que soit l'aliment, que ce soit un aliment sucré ou salé, dès qu'ils rajoutent un peu de sucre, les gens trouvent ça quelque part meilleur. Ouais. Et donc, ils en mettent partout. Et c'est vrai que là, on entre un peu dans l'espèce d'âge d'or, je pense, qui est, enfin, années 50, 70, 80, où on voit toutes les pubs pour. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, la pub avec l'abeille qui dit j'étais là, ou les morceaux de sucre en domino, et qui, en fait, on fait. Ce qui peut paraître bizarre maintenant, mais il y avait des pubs à la télé pour simplement le sucre. Même oui. Pas pour un aliment transformé, pour juste le sucre. C'est génial.
Oui, absolument. Et le sucre, c'est génial parce que, et pendant très longtemps, il y a eu cette idée que le sucre, c'était génial parce que c'est l'aliment énergétique, c'est l'aliment du cerveau, quoi. C'est l'aliment de l'énergie, c'est l'aliment du muscle, c'est l'aliment de la productivité, voilà. Et même si, dès la fin du 19e, début 20e siècle, on a ce qu'on appelle le mouvement naturiste, avec notamment le fameux médecin de l'époque qui s'appelait le docteur Carton, qui dénonce le sucre comme un des aliments meurtriers. Il dénonce d'ailleurs le sucre, le vin et la viande. Les trois aliments meurtriers, dit-il. Il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment entendu. Donc ça concerne après des espèces de petites sectes comme ça qui vont dire que le sucre c'est pas bon. Mais il disait que c'était pas bon. Pourquoi ? Parce que en fait, il disait que c'était un produit chimique. Oui, c'est vrai que c'est un produit chimique, un produit mort. Et donc il expliquait que quand on absorbe du produit chimique et du produit mort, notre organisme, qui est un organisme vivant, doit faire un tel effort d'assimilation de ce produit qu'en fait, on développe des maladies. Bon, j'ai pas entendu ça récemment, mais ça va venir, on va certainement raconter ce genre de choses. Oui.
Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est revenu à une étape où les saccharophobes sont un peu en train de se faire plus entendre que les saccharophiles. Ouais. Mais alors, c'est quoi le juste milieu, en fait, s'il y en a un ? Est-ce qu'un des deux a raison, ou est-ce qu'en fait il y a un truc à trouver qui est de essayer de contrôler son alimentation sucrée et...
Écoutez, moi je ne prendrai pas part dans ce débat parce qu'il est complexe, mais je crois que de toute façon, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que le sucre, c'est du plaisir. Il n'y a pas de raison, sauf si on rentre dans une société tellement politiquement correcte et tellement puritaine qu'on ne peut plus se donner aucun plaisir et donc on va supprimer tout ça, dans une espèce d'austérité comme ça. Bon. Alors, je pense que si on consomme du sucre en quantité raisonnable, limitée, etc., ça fait pas plus de mal qu'un autre produit. Je crois que le tout, c'est d'avoir véritablement une alimentation équilibrée. Le problème aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a du sucre partout et qu'on l'ignore et que donc on est en surconsommation en l'ignorant, malgré nous, sans le savoir. Donc, c'est ça le problème. Donc, les gens doivent prendre conscience de ça. Alors, il y a des tas d'aliments qui sont présentés comme sains. Je pense, par exemple, les céréales du matin, ou je sais pas quoi, bon, ou les graines, là, qu'on nous vend maintenant à tout bout de champ, bon, qui sont avec des sucres ajoutés. Les gens sont persuadés qu'ils ont une alimentation hyper saine. S'ils prennent ça le matin, bon, ils voient pas la quantité de sucre qu'ils ingèrent. Bon. Donc il y a tout ça, et je pense qu'il y a toute une éducation à faire pour que les gens, sans culpabilité, puissent en effet avoir une alimentation équilibrée qui intègre aussi la dimension plaisir du sucre.
Merci à Julia Xergo, et maintenant place à Alix, créatrice de la pâtisserie Les Belles Envies. C'est une pâtisserie sans sucre, pour le dire vite, même si elle n'aime pas beaucoup qu'on dise ça. D'ailleurs, elle expliquera mieux que moi comment décrire sa pâtisserie. Pour y être allé, c'est vraiment bluffant, et ça se fait quand même poser pas mal de questions sur notre surconsommation de sucre. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, puisqu'elle va le faire en nous expliquant son parcours et comment, paradoxalement, le diabète l'a poussée à devenir pâtissière.
Je suis diabétique depuis que j'ai 13 ans, donc j'ai 17 ans de diabète derrière moi, donc quelques années, et beaucoup d'années de frustration en fait. Parce que le diabète, c'est la recherche de l'équilibre et faire attention à ce qu'on mange pour éviter ces problèmes de taux de sucre qui montent et qui descendent. Et donc, j'ai fait un constat très simple. J'ai pas mal voyagé. Puis, c'était toujours la croix et la bannière pour trouver des gâteaux. Parce que quand on est petit, on a envie de manger des gâteaux. C'est souvent ça, hein, c'est la récompense. Comme on disait tout à l'heure, donc le sucre, on en trouve pas, on en veut tout le temps. Et c'était toujours le même problème. Et puis, quand vous allez au restaurant, même si vous mangez du salé, ce qu'on disait tout à l'heure, je peux très bien arriver au restaurant, avoir un plat, commander un plat salé. Et puis, en fait, il s'avère que la sauce, elle est faite à base de sucre. Vous allez typiquement au restaurant japonais et tout ce qui est asiatique, c'est que du sucre. Donc ça a été un petit peu compliqué, et puis donc à chaque fois j'arrivais au restaurant, et puis comme je suis quelqu'un vraiment une bonne vivante, je me suis jamais privée de rien. Mais après, les années passant, on grandit, j'approche de la trentaine, et puis je me suis dit c'est pas possible que ça se fasse ces effets là et puis j'ai pris conscience en rencontrant d'autres diabétiques qui étaient diabétiques depuis des années, des complications un peu du diabète et ces complications du sucre. Puis j'ai toujours été très curieuse en fait, donc savoir comment ça se passait dans mon organisme, etc. Et ça c'est mon adolescence. Je me prive pas de manger, je continue. Et puis je sens bien que je fais des crises d'hypo, d'hyper, etc. Sans trop me poser de questions, mais quand même très curieuse. Et donc un diabétique, comme je vous l'ai dit, souvent frustré, donc il a envie de manger ce qu'il a absolument pas le droit. Le graal de ce qu'il a pas le droit, c'est ce qui touche au sucre, même si les sucres, c'est très vaste. Les sucres, en fait, vous en trouvez partout.
Mais la pâtisserie, c'est le truc interdit.
Absolument, voilà, c'est le truc où le diabétologue va vous dire « Non, Alix, tu ne manges pas ça, non, voilà. Tu manges du poulet et des haricots verts, sauf que toute ta vie, tu peux pas manger du poulet et des haricots verts. » Donc voilà, et comme l'a dit tout à l'heure madame, on va parler aujourd'hui du saccharose, vraiment le sucre le plus... Après, il y a plein de familles de sucre. Ça s'appelle le lactose, le sucre du lait, le fructose, le sucre des fruits. Il y a plein de sucres différents. Donc, un sucre, en fait, c'est vulgarisé. On appelle un sucre. Mais vous demandez à n'importe qui, c'est même pas ce que c'est qu'un sucre, en fait. Le sucre le plus néfaste pour la santé, c'est le saccharose. On se le dise bien, qu'il soit sous forme de sucre de canne ou sucre de betterave. C'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est brun et l'autre qui est blanc. Il y a les mêmes propriétés, exactement. Donc, j'ai fait une école de pâtisserie. J'ai compris les rouages de la pâtisserie, j'ai compris à quel point il y avait du sucre. Parce qu'en fait, vous faites les préparations et puis vous goûtez. Toute la journée, vous goûtez. Et là, je me piquais 12 fois par jour, alors qu'aujourd'hui, je me pique 6 fois.
Ce que j'allais dire, c'est pas dur de faire une école de pâtisserie quand on est
extrêmement
diabétique.
Extrêmement dur. Je me souviens de c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'était il y a 3 ans que j'ai fait l'école, 3 ans et demi. Et quand j'ai expliqué mon leitmotiv aux profs de la pâtisserie, et ils m'ont regardé, ils se sont dit, alors qu'on devient diabétique quand on est pâtissier, par exemple, mais aucune personne, enfin, ça doit exister, hein, je pense pas non plus être la première, mais de se dire, bon, moi, je suis diabétique, je vais faire une école de pâtisserie, puis voir ces tonnes de choses, parce que vous faites des préparations tous les jours, mais un pâtissier, il goûte tout le temps pour être sûr que vous êtes dans la bonne recette. Donc voilà, donc là, j'ai passé des mois très compliqués, monter, descendre et tout, et là, j'ai vraiment compris pourquoi ça montait autant, et pourquoi plus en plus de gens devenaient diabétiques, et que la maladie des pâtissiers, il y a plusieurs maladies qui se prêtent au diabète, qui se prêtent aux pâtissiers, c'est les caries, Vous avez voilà, les dents. En fait, le sucre, ça ronge les dents. Donc, la plupart des pâtissiers ont des facettes. Excusez-moi de casser le mythe de tous les grands pâtissiers. Mais en tout cas, ils mettent des, voilà, des fausses dents. Et ils ont des problèmes. Bon, ça, c'est autre chose. C'est corrélé au fait que les tables soient basses. Donc, problème haute de dos. Et puis, en troisième lieu, le diabète. Donc, c'est... tout tourne autour du sucre.
Est-ce que juste avant de revenir sur les alternatives et l'indice glycémique, est-ce qu'on peut juste, pouvez-je dire ce que c'est exactement le diabète, peut-être pour des gens qui ne sauraient pas vraiment exactement comment c'est au quotidien, parce que tu parles de monter, descendre, tu vois, peut-être que les gens n'hésitent pas.
Alors merci de cette question. Donc le diabète, c'est un problème de dérèglement de sucre dans le sang. Et il y a trois sortes de diabète. Il y a le diabète de type 1. Moi, je suis diabétique de type 1, donc insulino-dépendant. Donc, je suis dépendante à l'insuline. Mon pancréas fonctionne plus du tout. Diabète de type 2, on est plus connu et aujourd'hui, on sait tous d'où provient le diabète de type 2, à la différence du diabète de type 1, qu'on appelle une maladie auto-immune et qu'on connaît pas, en fait, cette dégénérescence des cellules pancréatiques, en fait. Le diabète de type 2, il est soit héréditaire, d'où le fait que le diabète s'arrêtera jamais, ou peut-être qu'un jour ils trouveront la pilule magique, on va dire comme le Viagra, qui fera que, je sais pas, le diabète s'arrêtera, mais aujourd'hui on n'a pas trouvé. Donc c'est héréditaire, ça peut même sauter des générations. Donc vraiment c'est compliqué. C'est un diabète dû à la malbouffe, et ça arrive tardivement, plus tardivement. Et le diabète de type gestationnel, donc diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel, c'est le diabète de grossesse. Donc là, c'est aujourd'hui, quand j'ai commencé Les Belles Envies, que j'ai fait mon étude de marché il y a à peu près 3 ans, c'était environ 6,5% des femmes enceintes. Maintenant, on est à 8,5-9% en 3 ans. Donc ça va ne faire qu'augmenter. Alors ça, ça arrive au moment de la grossesse. Donc c'est des gens qui sont sujets au fait d'être potentiellement diabétiques de type 2. Ça veut dire que déjà...
Il y a un terreau fertile.
Absolument. Il y a une petite déficience au niveau du pancréas. Donc, quand il y a un deuxième être qui arrive, comme déjà, il a du mal à produire, quand ils sont deux, c'est plus possible. Et il disparaît quand les gens accouchent, quand les femmes accouchent, excusez-moi. Voilà.
Et donc vient l'idée des belles envies qu'on pourrait résumer comme une pâtisserie pour diabétiques, même si c'est un résumé un peu raccourci, mais l'idée c'est...
Oui, il faut surtout pas dire ça, je peux pas...
Alors, ce qu'il faut dire, c'est indice glycémique contrôlé,
c'est
ça nous permet de parler de l'indice glycémique contrôlé. Qu'est-ce que c'est l'indice glycémique contrôlé? C'est quelque chose que vous avez créé?
L'index glycémique contrôlé, c'est quelque chose que j'ai entièrement créé, et c'est une certification qui certifie avec justement l'association d'un médecin diabétologue nutritionniste, donc ce qui a été très important, c'est ce qui fait complètement foi dans le concept, de certifier et contrôler un index glycémique inférieur à 30. L'index glycémique, pour l'expliquer, parce que c'est quelque chose de méconnu et ce mot un peu barbare en fait, l'index glycémique, c'est la valeur nutritive, pour un peu schématiser mais parler à tout le monde, la valeur nutritive du sucre. Autrement dit, les aliments qui ne comportent pas de glucides n'ont pas d'index glycémique. C'est le fromage et les protéines. Tous les autres aliments, que ce soit un haricot vert, même s'il a un index glycémique très bas, presque ignorant même, mais les légumes, certains légumes, contiennent des index glycémiques. Voilà. Maintenant, l'index glycémique, c'est une échelle de 0 à 100. Okay, 0 étant l'index glycémique le plus bas, voilà, et 100 étant l'index glycémique le plus haut. Comme les vitesses sur une autoroute, vous pouvez pas aller plus de 130, là, 100, c'est le glucose. Glucose, c'est une molécule, comme on disait tout à l'heure, on parlait d'énergie, justement, et de récompense, etc. C'est que le cerveau, la seule chose dont il a besoin pour vivre, il a besoin de glucose. D'accord? Mais le glucose passe sous cette forme, forcément, de saccharose. Donc, de 0 à 30, vous avez un index glycémique bas. Donc, c'est les légumes, tous les légumes qu'on retrouve. Cuit ou cru, ça dépend. Une carotte, on sait tous que l'index glycémique, on sait pas tous, mais il est aux alentours de 20, et quand vous le faites cuire, il est aux alentours de 40 et 50.
D'où le goût sucré des carottes cuites.
Absolument. Entre 0 et 30, vous avez un index glycémique très bas. En d'autres termes, ça veut dire que le sucre que vous ingérez, il arrive très rapidement dans votre sang. Très doucement, excusez-moi, très rapidement. Je fais le geste avec... Il arrive très doucement dans votre sang. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui se passe dans votre organisme? Ça veut dire que vous sécrétez très peu d'insuline, donc vous avez pas de pic de glycémie, vous n'êtes pas fatigué.
Donc le sang a le temps de traiter le sucre qui lui arrive.
Exactement, donc il arrive comme ça tout doucement, il n'arrive pas hyper vite comme ça, donc là quand il arrive hyper vite c'est comme une drogue, quand on compare le sucre à la drogue c'est exactement ce qui se passe.
Oui, c'est le rush de sucre dont on parle chez les enfants qui ont bu trop de coca ou ont mangé trop de gâteaux et qui deviennent d'un coup surexcités.
Vous avez tout compris, donner, nous on fait l'essai à la pâtisserie avec plein de femmes, des femmes qui ont du diabète gestationnel, quand ils donnent du sucre au bébé, vous sentez le ventre qui fait comme ça.
Le bébé, il s'énerve, il est super content. Et en fait, ça fait exactement ça.
Et donc, aux belles envies, vous avez l'index glycémique contrôlé, c'est-à-dire oui. qu'il est en dessous de 30.
Absolument.
Donc, pour les diabétiques, c'est parfait.
Parfait. Voilà.
Alors, comment on fait pour faire quelque part de la pâtisserie, entre guillemets, sans sucre?
Alors, c'est une vaste question. Donc,
vous disiez tout à l'heure le sucre de coco, c'est ça?
Voilà, du sucre de coco. Donc, quand je vous disais dans mon école, j'ai remplacé donc les deux grandes familles, on va dire, de sucre. Donc, le sucre simple, comme le saccharose, par du sucre de fleur de coco, notamment, et les sucres qu'on appelle complexes, puisque aujourd'hui on dit plus sucre lent et sucre rapide, parce qu'on disait ça à l'époque, mais en fait ça veut strictement rien dire, puisque un sucre lent peut devenir un sucre rapide. En fonction notamment du temps de cuisson que je vous ai parlé tout à l'heure. On y reviendra si vous le souhaitez. Et donc, on parle de sucre simple et sucre complexe. Ça veut dire qu'on ne l'assimile pas de la même manière. Donc, le sucre de fleur de coco, il a un index glycémique de 30. Quand le saccharose a un index glycémique de 70. Donc déjà, ça divise par deux l'index glycémique. Ensuite, on a enlevé toutes les farines de blé blanches parce que on dit, oui, il faut plus manger de farine de blé, la fameuse mode du sans gluten, excusez-moi pour les gens qui m'entendront et qui ne mangent plus de gluten. Il y a des gens qui sont vraiment cœliaques, mais les intolérants et autres, ce qui fait mal au ventre pour les gens qui mangent plus de gluten, etc., c'est tout ce qui est transformé, modifié. Et souvent, en général, tous les industriels rajoutent du gluten, parce que le gluten, c'est un liant, et ça permet, c'est un intérêt majeur, même dans la boulangerie, dans la pâtisserie. Mais si vous mangez de la farine de blé complète, qui est bio, etc., les gens qui se disent intolérants n'ont pas forcément, voilà. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, j'ai remplacé la farine de blé blanche, qu'on appelle type T45, T55, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais c'est les moulures en fait de blé, par des farines de blé complètes notamment. Et la farine de blé complète, on a rajouté de la farine de lupin. Le lupin, c'est la farine qui a l'index glycémique le plus bas de toutes les farines. Il a un index glycémique de 15, quand la farine de blé blanche a un index glycémique de 70. Donc là, ça vous fait, voilà. Et on a mélangé plusieurs farines, donc la farine de lupin notamment. Donc le lupin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est forcément, le lupin, c'est une fleur. Donc on trouve du lupin jaune, c'est une très belle fleur, du lupin jaune, du lupin rose, du lupin bleu. Et on en fait une fève aussi. On mange ça souvent dans les pays méditerranéens. Donc c'est une fève jaune, vous mangez l'intérieur. Et donc ça, c'est une fève qui est incroyable parce qu'elle est très protéinée. Alors c'est un allergène. Son petit désavantage, comme le soja, comme d'autres, les fruits secs, etc. Mais en tout cas, elle est très importante, nous, pour l'index glycémique. Donc, on l'a mélangé. Donc, le lupin, farine de coco. Ce fameux coco est génial. Si ça pouvait pousser à Paris, je serais plus riche. Et donc, c'est vraiment des bienfaits. Donc, la farine de coco a un index glycémique de 35. On n'a pas pu. Je fais la réponse avant la question. Vous me la posiez peut-être. C'est mais pourquoi vous n'avez pas remplacé uniquement par une farine? Parce qu'aujourd'hui, la farine de blé blanche a toutes les propriétés pour faire de la pâtisserie, on va dire traditionnelle. Là où une farine de lupin n'a pas exactement les mêmes propriétés.
Donc mais c'est donc là. On a besoin de mélanger les trois pour arriver à retrouver.
Voilà. On a fait un mélange homogène pour essayer d'avoir un faible index glycémique, répondant à notre promesse, et tout en gardant un produit qui est beau et qui est bon, avec un goût qui reste quand même un goût à peu près semblable, même si vous le goûtez, la plupart des pâtisseries, des gens qui viennent et qui savent même pas forcément que c'est un index glycémique faible, sont sidérés.
Moi, c'est vrai que je suis venu aux Belles Envies pour goûter plusieurs pâtisseries, et c'est vrai que déjà, c'est marqué nulle part, il y a marqué un index glycémique faible, mais, ou contrôlé, pardon, mais ça, si on n'est pas au courant, on sait pas ce que c'est. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont des réactions étranges? Est-ce qu'il y a des gens qui sont énervés qu'on leur ait pas dit qu'il n'y a pas assez de sucre? Ou est-ce que finalement tout le monde est quand même plutôt soit bluffé, soit surpris, soit content de savoir que ça existe?
Au début, c'était une stratégie. Alors, merci de le soulever. Je me suis un peu bataillée avec le médecin notamment, qui me disait, mais c'est important de le dire et de l'expliquer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a mis du temps, parce qu'au début, la première année a été beaucoup plus dure que même un an et demi. Ça a été très compliqué parce que on explique à chaque fois que chaque client, pour moi, c'était lui expliquer. Donc, c'est technico-commercial, quoi. C'est pas seulement tu vends un gâteau comme ça, tu dois vraiment tout expliquer. Et en même temps, aujourd'hui, on vend un gâteau pas pour sa promesse, on vend le gâteau parce qu'il est beau et qu'il est bon. Qu'il fasse pas monter le taux de sucre, génial, en fait. C'est super. Mais les gens l'achètent parce qu'ils le trouvent bon. On n'est pas sur le marché du light ou de la promesse. Quand vous mangez d'autres marques, vous le couperez, Actimel ou Activia, etc., vous l'achetez pas parce que vous le trouvez bon. Qui peut trouver qu'un yaourt Sveltes soit meilleur qu'un yaourt la laitière, pour reciter? Non, personne. Sauf que tu l'achètes parce que tu sais que c'est bon pour ton corps. Là, tu l'achètes parce que tu le trouves beau et bon. Donc, j'ai essayé d'appâter les gens en disant, voilà, vous mangez quelque chose beau, parce qu'on mange la pâtisserie avec les yeux d'abord, bon, et après, on sait même que ça fait pas monter au sucre. Juste génial. Donc, ça a été plutôt comme ça que j'ai essayé de repenser les choses. Et je pense qu'à terme, on sera meilleur dans la durée. Au début, on aurait pu le faire pour gagner directement en puissance, mais j'ai jamais voulu écrire ou dire que c'était sans sucre. Aujourd'hui, quand on voit sur les magazines, quand on parle de nous de temps en temps, il y a écrit sans sucre, sans sucre, sans sucre. C'est pas moi qui l'ai dit, ça sort pas de ma bouche. C'est juste que les journalistes, pour simplifier et pas parler d'index glycémique justement, et pour parler à tout le monde, ils ont dit que c'est sans sucre. Mais non, on n'est pas sans sucre puisqu'on met du sucre de fleur de coco. Donc on n'est pas. Et puis sans sucre, ça fait pas rêver. Hein. Manger une pâtisserie sans sucre, c'est.
C'est vrai que quand on rentre dans la pâtisserie, il y a toutes les pâtisseries sont, enfin, pour ceux qui se demandent, je pense qu'ils nous écoutent, qui doivent être intrigués de cette idée de pâtisserie index glycémique faible, pardon. Visuellement, ça ressemble exactement à ce qu'il y a dans une pâtisserie. C'est des très belles pâtisseries. Et moi, c'est vrai que quand j'ai goûté, notamment la tarte au citron, qui m'a complètement bluffé, et je suis un grand fan de tarte au citron, le goût est bon, mais il y a un truc assez marrant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sucre du tout. Enfin, en tout cas, donc en fait, il n'y a pas cette espèce d'impression de sucre, cette note sucrée qu'on peut appeler, qui en fait est tout le sucre qui inonde le palais, qui va un peu coller aux dents, qu'on va avoir sur toutes les autres pâtisseries. Donc au début, c'est hyper surprenant, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque un truc. Puis finalement, moi, j'ai trouvé ça super agréable. En fait, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même assez désagréable d'avoir cette espèce de bouche un peu pâteuse avec toutes les pâtisseries. Et ce qui pourrait passer pour une absence de longueur en bouche au début, et en fait, c'est plus tout le côté un peu piégeux, un peu, je dirais, putassier du sucre parfois, qui essaie de nous charmer comme ça et dont on a énormément l'habitude, en fait.
C'est ça. Et merci de ces compliments, en tout cas. Et c'est vrai que pour revenir sur la tarte au citron, c'est notre best-seller. Enfin, aujourd'hui, plus il a été, ça a été détrôné par la tarte passion. Mais,
le flan était très bon aussi.
Bon, merci. Et en fait, c'est vrai que la tarte citron, par exemple, pour reprendre l'exemple, une tarte au citron, c'est 60 grammes de glucides. Je vous prends les glucides, c'est quoi? C'est les sucres simples et les sucres complexes, donc l'association des deux. Nous, on fait une tarte au citron qui a 10,5 grammes de glucides en prenant la pâte sablée et la crème qui est à l'intérieur avec la meringue qu'on fait sans sucre. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Pour vous donner une référence qui parle à tout le monde, une pomme, c'est 20 grammes de glucides. Attention, je ne parle pas des calories, bien évidemment, on y reviendra après. Mais donc parce qu'il y a des calories. Moi, j'utilise de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de noisette, on utilise du beurre sur certains produits, etc. Donc, j'ai pas de problème à dire que nous, on n'est pas hypocalorique du tout. Hein. Moi, vraiment, mon cheval de bataille était le sucre et je suis pas sur le light. Light, c'est sans gras, sans sucre. Donc, pour revenir sur la tarte au citron, donc 10,5 grammes de glucides et une pomme, c'est 20 grammes de glucides. Autant vous dire que moi, diabétique, je me fais la même piqûre quand je mange deux tartes au citron que quand je mange une pomme.
Dernière question, est-ce qu'il y a une pâtisserie sur laquelle tu vous butez un peu, sur laquelle elle est un peu plus dure que les autres et que vous aimeriez un jour, c'est le
ouais,
général.
Ouais,
quoi.
Cette question, elle est top. C'est les macarons. Aujourd'hui,
ce que j'avais en tête, je comprends.
On n'arrive pas à faire la coque du macaron parce que le saccharose, la coque du macaron, c'est très léger en fait. Et nous, le sucre qu'on utilise, il est riche en minéraux. On le voit, ça ressemble un peu à la cassonade en fait. Et il est dur à travailler sur certaines choses. On n'avait pas réussi jusqu'à présent à faire du praliné aussi. Le praliné, c'est que du sucre. Et là, on est en train d'y arriver. Donc, je ne peux pas vous raconter la nouveauté, mais si. Et enfin, si, d'ailleurs, je vous mets l'eau à la bouche, donc ce sera le praliné et le caramel.
Si vous passez par Paris, ça vaut le coup d'aller faire un tour à la pâtisserie des Belles Envies pour voir un peu sa vision du sucre changer et pourquoi pas la faire évoluer. N'hésitez pas aussi à nous mentionner si vous en connaissez ailleurs qu'à Paris. D'ailleurs, on sera ravis de les mettre sur notre carte Mapster. D'ailleurs, toutes les adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesécoutes.fr/bouffon au pluriel. On est aussi sur Twitter, @bouffon au pluriel NE, et aussi pareil sur Instagram. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes animée par moi, Guillaume Madyssen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cuissard. Parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. À la semaine prochaine!